Alors, on commence notre analyse à Luanda, la capitale de l'Angola. Il faut s'imaginer une scène, une grande banque de l'époque coloniale, un bâtiment vraiment imposant, rose et blanc. Et là, juste sous ses arches, il y a un petit restaurant qui bourdonne de vie, le Teimosa da Banda. La cuisine, elle est ouverte, elle donne sur le trottoir et c'est un balai incessant. On y voit des fonctionnaires, des touristes, les voisins, bref, tout le monde s'y harde. C'est vraiment l'image d'une nouvelle ère.
C'est une image incroyablement puissante, surtout parce qu'elle contraste radicalement avec le passé très récent de l'Angola. Aujourd'hui, je crois qu'on va vraiment explorer une histoire de résilience. Comment un pays qui a été dévasté par des décennies de guerre civile a pas seulement reconstruit ses routes ou ses bâtiments, mais quelque chose de beaucoup plus intime, sa culture culinaire.
Exactement. Et le mot « reconstruire » est clé ici. Ce n'est pas une création à partir de zéro. L'article qu'on a sous les yeux, il montre bien qu'il s'agit de redécouvrir des racines qui étaient enfouies, quoi. Donc, on va suivre ce parcours, de la rareté à la fierté. On va voir comment la gastronomie est devenue un outil de mémoire, d'identité.
Et même de résistance, d'une certaine manière.
Voilà. Comment l'Angola a reconquis sa propre cuisine? Restons un instant au Teimosa da Banda. Il symbolise vraiment ce point de départ. La cofondatrice, Maria Lucena, elle insiste beaucoup sur cette notion de communauté. Elle a une phrase qui résume tout. Elle dit que son restaurant, en fait, a rassemblé tout le monde autour d'un verre, du PDG au coiffeur du coin.
Et ces sentiments-là qui avaient disparu?
Complètement. Ce sentiment de convivialité, d'espace partagé, qui avait été pulvérisé par des années de guerre.
Pour bien comprendre pourquoi un simple café sur le trottoir est si important, il faut revenir en arrière. L'article nous ramène à Luanda en 2002, juste après la guerre. L'auteur décrit une ville où la nourriture, c'était une denrée rare.
C'était une obsession même.
Oui, une obsession. En dehors du seul grand hôtel qui fonctionnait, il n'y avait presque rien. L'auteur y raconte avoir mangé un morceau de viande douteux avec des frites grasses, ou alors un poisson acheté à un pêcheur qu'il faisait griller sur un vieux fût de pétrole.
On est dans la survie pure.
Voilà.
Pas dans la gastronomie.
Et le plus fou, c'est que 10 ans plus tard, pendant le boom pétrolier, la situation était tout aussi extrême, mais à l'opposé. La même plage, ce n'était plus celle des pêcheurs, c'était des clubs de luxe.
Ah oui, ultra exclusif. L'un d'eux demandait 100 $ juste pour entrer. Un plat et une boisson, ça pouvait coûter 300 $. C'était devenu inaccessible. L'auteur a même dû emporter ses propres barres protéinées.
Ce qui est saisissant, c'est ce grand écart. D'un côté, la pénurie totale, de l'autre, l'hyperluxe importé. Et le point commun entre les deux, c'est que la cuisine angolaise, l'authentique, l'accessible,
elle n'existait pas.
Elle était introuvable. Ce qui nous amène à aujourd'hui où l'article est clair. Ces précautions ne sont plus nécessaires. La ville a changé, le système alimentaire a changé. La question, c'est comment est-on passé de ces deux extrêmes à une scène locale qui est aujourd'hui florissante?
Alors justement, décortiquons ça. L'article explique que pour comprendre cette renaissance, il faut d'abord regarder la terre. Pendant la guerre, le système alimentaire était paralysé. D'immenses terres agricoles étaient inutilisables. Pas parce qu'elles n'étaient pas fertiles, mais à cause des mines antipersonnelles.
C'est une image terrible, ça. Des champs fertiles devenus des champs de mines.
Exactement. Le transport interne était coupé, les routes...
Trop dangereuses. La conséquence, c'est que l'Angola, qui a un potentiel agricole énorme, dépendait quasi entièrement des importations. La plupart des choses venaient du Portugal à des prix...
exorbitants.
Et le boom pétrolier, ça n'a pas aidé.
Non, au contraire. Ça a aggravé le problème pour la majorité. Ça a entraîné encore plus d'importations, faisant grimper les prix. Ce n'était pas une solution durable. Le vrai tournant, c'est donc le déminage. C'est ça qui a permis de...
de rouvrir les terres à l'agriculture, à l'élevage. Et même, chose surprenante, l'article parle de viticulture.
C'est vrai que c'est surprenant. Ça montre à quel point le potentiel était là, juste en sommeil. Et les chiffres de l'article le confirment de manière assez spectaculaire. Entre 2005 et 2024, les importations de fruits et légumes, elles ont chuté de plus de la moitié, de 70 millions à 32 millions de dollars.
Et les exportations, elles, ont explosé.
Ah oui, complètement. En 2005, l'Angola n'exportait aucun légume, zéro, et à peine 2 000 $ de fruits. L'an dernier, ce chiffre a atteint presque 11 millions de dollars.
C'est une trajectoire impressionnante.
Bien sûr, le pays est toujours un importateur net. Mais la tendance, elle est très claire. le pays se nourrit de plus en plus lui-même. Et ce changement agricole a entraîné un changement dans les mentalités. On cite un restaurateur, Claudio Silva, qui dit « Il n'y avait absolument aucune fierté pour les produits locaux et maintenant c'est tout l'inverse. »
C'est une révolution culturelle.
Oui. Aujourd'hui, les chefs proposent des menus dégustation exclusivement angolais, avec des plats qu'ils qualifient d'exquis.
Ce Claudio Silva, il est lui-même un symbole de ce renouveau. Il fait partie de cette diaspora angolaise qui est revenue au pays. Lui, il venait des États-Unis. En 2025, il ouvre son restaurant, le Kissange, dans sa maison de famille.
Une expérience haut de gamme, donc.
Oui, mais qui utilise quasi exclusivement des ingrédients locaux. Et son chef, Afonso Videira, il est aussi revenu de l'étranger. De Belgique, je crois. Il ramène des compétences pour transformer la scène locale.
Mais ce n'est pas qu'une affaire de haute gastronomie. C'est ça qui est intéressant. On trouve aussi une pâtisserie française, des restaurants style Miami. Et surtout, la transformation, elle est visible dans les marchés de quartier, comme le marché de São Paulo.
Absolument. L'article nous emmène dans ce marché avec le chef Anselmo Silvestre. C'est un autre exemple fascinant. Il a travaillé dans l'un des meilleurs restaurants du monde en Afrique du Sud, La Colombe, avant de rentrer.
Et là, on touche vraiment du doigt les saveurs locales. Le chef montre des petits paquets en plastique qui contiennent des pâtes. L'une est faite de cacahuètes et de graines de tournesol locales.
Et l'autre de cacahuètes et de graines de citrouille. Il décrit le goût comme très terreux et un peu torréfié.
J'adore cette dualité. Il veut utiliser ses ingrédients de manière traditionnelle, dans des ragoûts.
Oui.
C'est plus que de la simple cuisine. Les vendeuses du marché, elles partagent aussi leurs connaissances.
Oui, l'une d'elles explique que les graines de tournesol peuvent être utilisées pour traiter la prostate. Il y a, comme le dit le chef, tout un système de croyances derrière, beaucoup de ces choses. La nourriture est liée à la culture, à la tradition.
Bien sûr, tout n'est pas parfait. Des défis importants subsistent. Revenons à Maria Lucena de Teimosa. Elle utilise du cacao local pour sa mousse au chocolat, transformée par un chocolatier local. La démarche est super.
C'est une démarche parfaite, mais elle se heurte à des problèmes très concrets. Les stocks sont irréguliers, c'est une toute petite production, donc le produit final est cher.
Et ce problème va au-delà du cacao, j'imagine.
Oui, elle souligne les problèmes systémiques. Les transports sont insuffisants, les routes pas toujours en bon état. Elle conclut en disant qu'il y a une immense opportunité de développer l'industrie, que beaucoup était fait, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Alors, si on essaie de synthétiser, on a vu le parcours incroyable de la cuisine angolaise, d'un système anéanti par la guerre à une scène vibrante portée par une agriculture locale.
Le retour de chefs talentueux.
Et une immense fierté pour les produits du terroir.
C'est une histoire qui va bien au-delà de l'assiette, en fait. La nourriture en Angola est devenue un moyen de reconstruire une communauté, de se réapproprier une identité et de bâtir un nouvel avenir économique. C'est une reconstruction, bouchée par bouchée.
Et pour laisser notre auditoire sur une dernière réflexion, une piste à explorer.
L'article, il mentionne brièvement la viticulture en Angola. Alors que les chefs réinventent la nourriture, on peut se demander... Quelle sera la prochaine frontière? Est-ce que le vin, le café ou autre chose pourrait devenir le prochain ambassadeur mondial de cette renaissance, racontant l'histoire de l'Angola dans chaque bouteille ou chaque tasse?